is Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up. It's good at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer.
Da putut tanze sa.
Am pe șuă.
E și pete.
Salut les potos, bienvenue sur Money Time. J'espère que tout le monde va bien. Ce soir, une émission incroyable, mais on va y revenir. Ça y est, c'est la fin de la saison NBA et New York est champion. Le trophée Larry O'Brien.
Go Knicks, go!
Le trophée Larry O'Brien a été célébré dans toute la ville 53 ans après le dernier titre. Et les gamins de l'université de Villanova ont botté le cul des enfants de San Antonio.
On l'avait dit.
Pas tout le monde.
On l'avait dit.
Buffa et moi l'avait dit.
Ouais, précis.
Money Time, saison 3, épisode 19. Money Time, c'est votre émission basket sur Graphite 94.9 sur la bande FM, dans laquelle on décortique l'actu de la balle orange et où on décrypte la culture basket sous toutes ses formes. Money Time est aussi présent sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et aussi à écouter en streaming sur www.graphite.net. Et vous pouvez même la podcaster. Au sommaire de l'émission, un petit teaser, il y a quelqu'un qui va arriver avec nous. Une légende du basket français.
Un peu mon neveu.
Ensuite, on passera bien sûr sur l'actu de la balle orange. Une petite musique peut-être, si on en trouve une. Ah, parce que Buffa, c'est Buffa qui est aux manettes. Hein. Le retour sur la finale NBA. On a Jacques qui est avec nous pour nous parler de ses activités.
Aïe.
Enfin, le buzzer beater, on attend quoi de la saison prochaine? Eh oui, parce que c'est fini, mais tu nous manques déjà, madame petite NBA. Mais avant tout, je ne suis pas seul pour cette émission et entouré de la crème. De la crème. Alors, on y va. Alors, pour la dernière, je leur ai fait une petite présentation avec leur équipe favorite. Allez, on y va. Il a la fantaisie de Derrick Rose, la résilience de Michael Jordan, la loyauté de Pippen, la répartie de Joachim Noah et le physique de Luc Longley. Salut, Buffa.
Salut, c'est bizarre, on a un retour bizarre. Bienvenue dans Money Time.
Ok. Il a la même coupe de cheveux que Tim Hardaway, la vitesse de D-Wade, le shoot de Ray Allen, la longévité de LeBron James et la capacité de bloc de The Morning. Salut Pascal.
Toi, tu m'as jamais parlé aussi bien.
Ouais, je sais. Ah,
si ma femme me parlait comme ça.
Détends-toi. Il a la vista de Bob Cousy, l'efficacité de Sam Jones, le trash talk de Larry Bird, la gentillesse de Kevin Garnett, lol, et le palmarès de Bill Russell. Salut Bruno.
Salut.
Et enfin, il a le leadership de Isaiah Thomas, l'élégant de Cunningham, la discrétion de Rip Hamilton, le respect des arbitres de Rashid Wallace et la gentillesse de Bill Laimbeer, c'est oh. Rap number 2.
Bonsoir à tous.
Photos, ça va? Est-ce que tout le monde va bien?
Le melon.
Ouais, ouais. Moi je m'en fous, j'ai été bien servi.
Ah oui, bon. La gentillesse de Bill Laimbeer, c'est bien connu. Quoi,
ah, c'est clair. Ouais.
Enfin, moi, celle qui me fait le plus rire, c'est le respect des arbitres de Rashid Wallace. C'est moi. Allez, on y va. Alors, est-ce que ça fonctionne, mon petit Buffa? Parce que là,
non, parce que là, faut quand même expliquer aux auditeurs qu'on a une chance inouïe. C'est qu'on est, on va être au téléphone pour l'émission et on n'a pas présenté Jacques quand même.
Jacques est avec nous aussi pour nous parler aussi de l'activité dans laquelle on va parler. Donc là, ça sonne. J'espère qu'il va bien décrocher. Bonjour, monsieur.
Bonjour, c'est la valise RTL.
C'est la valise RTL. Alors on va te présenter. Alors les amis, fin avril, on vous a fait vivre une soirée incroyable avec la présence de Georges Eddy, avec nos amis du Stadium. Et ce soir, on vous a préparé une surprise de folie aujourd'hui car nous avons avec nous un invité plus qu'exceptionnel. Joueur NBA des Washington Wizards, des New York Knicks et des Indiana Pacers, joueur de l'équipe de France et vice-champion d'Europe 2011. Nous avons avec Kevin Séraphin au téléphone. Salut Kevin, bienvenue dans notre émission de Money Time.
Merci.
Merci, tu sais, même des fois quand tu dis le palmarès, même des fois je me dis, putain, c'est vrai, j'étais tout ça.
Eh ouais.
On oublie. Ouais. Alors ce soir, tu es avec nous pour nous parler de ton projet en association avec le club de Lacroix-Saint-Ouen. Le Slam Elite débarque dans l'Oise. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe ?
Donc la Slam Elite, c'est une association et c'est aussi une boîte du coup qui fait des comptes, qui organise des comptes de jeunes pour des jeunes. Donc voilà, aujourd'hui on s'est associé puisque je trouvais que c'était bien d'associer mon image avec ça. Moi, il faut savoir que j'ai été moi-même détecté par un con. Donc lorsque j'avais, à quel âge j'avais 15 ans, 14 ans à Cholet.
Ouais.
Et donc du coup, c'est pour ça que les cons, ça m'a toujours tenu à cœur. Donc moi-même, j'ai fait un con pendant 9 ans qui s'appelait le Guyas Star Kevin Serafin, où on a pu envoyer 28 jeunes. Donc lorsque Riyad est venu me parler de ce projet, il me parlait de la satellite, ça m'a tout de suite parlé. Donc du coup, à partir de là, on a mis en place un accord et ben, je vais être là cet été.
Et toi, c'est quoi ton rôle exactement ? Tu participes au camp ? Tu viens sur place ? Comment ça se passe ?
Donc du coup, je serai sur place.
Donc du coup, je serai sur place,
je serai là. Et après, je viens pas en tant que coach ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je vais vraiment venir en tant que host. Donc du coup, je vais venir, je vais parler aux jeunes. Il y aura des moments dédiés avec les jeunes. Et après, moi, je serai là tous les jours. Donc s'il y a des jeunes qui ont faim et qui ont envie d'avancer, moi, je serai totalement ouvert à leur donner des conseils et à les aider à avancer sur ça.
Oh là là, ça va être la folie à la croix, là. Tu sais que c'est une petite ville, hein. Il va y avoir c'est des bien. Bouchons. Bah, c'est la écoute, première fois de la vie.
Écoute, le but, c'est que ce soit petit ou pas. Le but, c'est à un moment de se dire qu'on va trouver des joueurs partout, en fait. Et à un moment, c'est pas parce que vous êtes au fin fond du monde qu'on va quand même pas vous trouver aujourd'hui, bah, c'est ça le but. Donc même l'Oise, c'est vrai que c'est un département dont on parle pas forcément, mais à un moment aujourd'hui je pense qu'il est temps de commencer à déclencher les choses dans tous les départements, et bien on commence avec l'Oise, et moi personnellement je serai là en tout cas et je serai à fond.
Et pour faire pas mal de salles et voir beaucoup de matchs, il y a quelques petits jeunes qui ont bien du talent.
Ouais, c'est clair. On n'est pas très très loin de Paris, c'est vrai. Donc on est comme sur des bassins, bon, t'as Creil autour, tout ça. C'est des gros bassins de population.
Compiègne.
Mais c'est vrai que le basket, en tout cas sur le secteur à Compiègne, et Jacques, tu vas pas me dire le contraire, hein, puisque Jacques c'est un pilier un petit peu du basket local. voilà, on a une grosse commu basket qui est bien vivante sur les terrains extérieurs, sur les streets, et puis également dans les clubs. Donc ça vit bien ici.
Totalement. Totalement. Et puis après, la France, faut savoir, aujourd'hui, on a pratiquement 20 joueurs NBA. La France, aujourd'hui, c'est un vivier. Donc, on en a partout. On sait juste que je pense pas qu'il y a un jeune, je vais être très, très honnête avec vous, je pense pas qu'il y a un jeune déterminé. Il n'y a pas le jeune parfait à jouer au basket. À un moment, c'est ce que vous allez faire dans votre vie, c'est où vous allez aller, les pros et les différentes personnes qui maîtrisent le sujet que vous allez rencontrer, aux différents camps, quand vous allez à un moment être acharné, travailler dur, discipliné. C'est ça qui va faire. Si tout le monde, c'est une recette que tout le monde peut faire, et après il faut juste tenir, parce que parfois avec les aléas de la vie, il y a des jeunes, je vois plein de jeunes, même parfois, ils disent j'ai besoin d'argent, donc ils vont bosser, donc ça fait qu'ils mettent un peu le basket à côté, et forcément il y a plein de choses comme ça, mais nous aujourd'hui c'est de venir partout et se dire apportant du basket et donnant une chance et donnant l'espoir aux jeunes. Donc en tout cas c'est là, c'est pour ça que moi je me suis engagé. Et ça a l'air d'être un bout du sport, mais c'est actuellement la vérité, parce que j'essaie de ne pas m'engager sur tout. Donc c'est vraiment en tout cas la direction qu'on a fait.
C'est le parcours, comme tu dis, qui détermine aussi comment évolue un joueur. Et le tien, il est assez incroyable. 6 saisons en NBA quand même, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Tenir 6 saisons...
C'est du directeur.
non, mais c'est vrai, c'est une belle prouesse et tout ça, rester en haut de l'affiche. On sait que la NBA est une ligue ultra compétitive. Gagner sa place dans un roster, c'est déjà un exploit. Y rester... C'est
magnifique.
C'est magnifique. Et faire des stats. Totalement. Et tu as fait quand même quelques saisons solides.
Totalement. Et on ne se rend pas compte, mais au final, c'est une stat que je pense que les gens ignorent. Sur le nombre de gens qu'on a eu dans l'humanité, on voit, là aujourd'hui, on est 8 milliards, mais avec les gens qui sont morts et les gens qu'on a eu avant, et si on part sur une population de peut-être 20 milliards de personnes, il n'y en a eu que 6 000 et quelques qui sont allés en NBA. Et aujourd'hui, en tant que Français, on est moins de 60.
Ouais. Bah en tout cas, c'est pas non. mal. C'est pas mal d'y être arrivé. On est très, très fiers, en tout cas, de ton parcours aussi, parce que nous, fans de NBA depuis longtemps, on va dire, parce qu'on est tous vieux maintenant.
On est tous vieux autour de la table.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on a tous un certain âge. Et c'est vrai qu'on a vu passer des joueurs avec des précurseurs. Toi, tu les connais aussi certainement, parce que c'est les gens qui ont ouvert la porte. Olivier Saint-Jean, Tariq Abdul-Ouad, qui a commencé. Puis après, bah, on a eu Tony, forcément.
En plus, je vais parler, il y a peut-être un an de ça, il est en Californie.
Ah ouais, t'es avec Abdul Ahmed, c'est vrai.
Il venait d'une université.
Mais il est en Californie.
D'accord, ok, génial. Et c'était une belle rencontre ?
Ben, on a juste discuté, on a échangé, parce qu'il a un programme avec les jeunes, où lui aussi, il a investi dans les jeunes, il essaye d'aider les jeunes, et il place des jeunes aux États-Unis dans différents programmes. Et du coup, on avait échangé, oui, totalement intéressant. C'est la première fois qu'on parlait, c'est un Guyanais comme moi. Et c'est bien aussi qu'il soit passé avec vous et qu'il ait eu un échange en tout cas avec vous.
Ah bah c'est bah non on l'a pas eu, on connaît pas hein. c'est juste que nous on le connaît en fait de
voilà du bah, début.
Parcours du début etc. Ouais. Moi je le suivais quand il était à Michigan à l'époque.
Ouais.
T'es Michigan
okay.
Ouais c'est ça hein. Et il est parti à Georgetown après c'est pas ça.
Ouais je crois qu'il avait fait ouais. Ouais, parce que c'est un des premiers aussi à faire un parcours universitaire.
Ouais c'est ça ouais
on le suivait comme ça
ouais. C'est ça.
Et surtout, faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était encore plus fermé. Hein. Même la NBA,
ah ouais, carrément.
C'est pas possible pour un an américain de rentrer dans la NBA ou même dans le système universitaire. C'est vraiment très élite, très fermé. Et aujourd'hui, je pense qu'on a carrément défoncé les portes. Aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs européens et beaucoup de joueurs du monde entier dans la NBA. Mais c'est vrai qu'il y a une époque où il y avait des mecs qui étaient assez bons pour y être, mais c'était par rapport à des nationalités ou des choses comme ça. Ils pouvaient pas forcément y être. Donc, faut que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, on est dans une ère où aujourd'hui, il y a une fenêtre vers la France et les scouts, parce que j'ai été scout pour les Clippers.
D'accord, les ok. Scouts, ça ne suffirait pas, tu vois.
Différentes équipes, tout le monde a les yeux rivés sur la France. Donc, honnêtement, c'est vraiment l'opportunité. Et si vous avez des jeunes, vous hésitez, vous voulez faire du basket, faites-en. Maintenant, c'est l'opportunité, c'est le bon timing.
D'accord, ok, cool. Bah, justement, si on revient sur ta draft, je crois que c'est 2010, je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça.
2010. À l'époque, tu es drafté par les Bulls. Était oui. Échangé instantanément au Wizard. Comment tu ouais. L'as pris, toi ? Parce que tu arrives dans une franchise mythique, dans la foulée, tu découvres déjà qu'en NBA, c'est un business et que bah, forcément, tu poses tes valises, mais tu vas les ouvrir ailleurs. Comment tu l'as vécu, toi, ça, ce début ?
Mais en fait, il faut savoir déjà que tout a un sens. Ça veut dire qu'une équipe va jamais... Par exemple, tous les gens qui sont draftés par une équipe, les équipes les ont forcément vus.
D'accord.
Donc ça, c'est un détail important. Ça veut dire que vous n'allez pas arriver à faire des tests avec 12 équipes et puis d'un coup, Utah Jazz apparaît de n'importe
ouais.
Où et vous
d'accord.
Donc, t'as les workouts. Généralement, ça n'arrive jamais. C'est très rare. C'est très rare. Donc maintenant, moi, pour suivre ce que je disais, je n'ai pas fait de test avec les Chicago Bulls.
Ah.
Okay. Donc, savais que c'était forcément... Je ne suis pas allé les voir. Donc je savais que forcément, c'était un deal qui avait été passé. Et une des équipes, parce que j'ai fait 7 équipes en 6 jours... une des équipes avec qui ça s'est super bien passé, c'est les Washington Wizards. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les Washington Wizards, ils avaient le premier pick de draft qui était John Wall à l'époque. Si je me trompe pas, ils avaient une place entre 20 et 26. Donc, je crois que c'est 25, c'est Trevor Booker. Et après ça, ils ont pris Amadi Ndiaye derrière en deuxième tour. Mais dans la zone où moi j'allais partir, parce que j'avais OKC, j'avais Oklahoma City qui voulait que je vienne, en 18e, dans la zone où j'allais partir, ils n'avaient pas de pick.
D'accord.
Donc du coup, ils se sont arrangés avec les Chicago Bulls. Mais ça, c'est mon agent qui me l'explique après. Moi, je savais
ouais,
pas.
Ouais, toi, t'as pas accès forcément à tout ça.
Il y a eu tout ce deal qui a été préparé. Du coup, ils ont vu avec les Chicago Bulls. Je crois qu'à l'époque, c'était Kirk Hinrich qui a été échangé ouais, ouais. Avec un peu d'argent. Et du coup, comme ça, ils m'ont récupéré. Et à partir de là, je suis arrivé à Washington. Mais c'est vrai que moi, quand le trade se passe, pour être honnête avec vous, je parle pas anglais à ce moment. Donc moi, j'ai aucune idée de ce qui...
ouais.
J'ai juste un mec qui arrive et qui me dit « Bon, arrête de trimballer la casquette Chicago Bulls, c'est un autre Wizard. » c'est ce qui se passe, en fait, parce que moi, je suis là avec la casquette partout. Hein. La casquette, j'aurais dormi avec, je pense.
Ah ouais, d'accord. Bah, justement, Mehdi, il avait une question à te poser par rapport à ça, un attachement pour une équipe particulière.
Ouais, est-ce que jeune, quand tu regardais la NBA, t'avais une équipe favorite ou...
Déjà, est-ce que tu regardais la NBA jeune
quoi. Pour être honnête avec vous, je ne regardais pas la NBA. Ouais.
Ah.
Et jusqu'à ce que j'arrive en NBA en 2010, je regardais pas la NBA, je connaissais pas. Une fois, je suis parti en 2008, c'est la première fois que j'allais aux États-Unis avec Edwin Jackson, et il me posait des questions des 5 des différentes équipes, ou même un remplaçant, même un joueur de chaque équipe, j'étais incapable de le dire. Et ça, c'est en 2008.
Ah oui, comme
maintenant, maintenant, en grandissant, quand je suis arrivé en NBA, en arrivant dans la ligue, vous avez une vision différente, parce que maintenant, vous êtes dedans.
Ouais.
Vous êtes dedans. Vous êtes dans une équipe, vous représentez une équipe, vous représentez une sorte un drapeau, d'une façon. Et donc, vous ne pouvez pas vous amuser à fantasmer sur toutes les équipes. Maintenant, il y a une équipe que j'ai toujours vu l'organisation, où j'ai vu que c'était assez bien. Et franchement, j'adorais même la ville en elle-même. C'est la Floride, c'est Orlando, les Magic.
Ah, tu me déçois énormément. Je croyais que tu allais dire Miami.
Mais en fait, non, pas Miami, parce que Miami, c'est plus... Moi, j'ai vécu à Miami, mais c'est pas... Honnêtement, Orlando avec, en fait, il y avait Dwight Howard à l'époque et ouais. J'avais vu la présentation de match Et en fait, ils avaient leur nouvelle, ils avaient refait la salle, et avec les trois écrans qui descendaient, il y avait Dwight, et qui était un poste 5 comme moi. Donc, du coup, ouais. Même la présentation, elle était incroyable. D'accord. On a l'impression d'être dans une boîte de nuit, dans une ambiance à Vegas quelque part.
D'accord.
Et j'avais trouvé ça incroyable. Et du coup, j'avais toujours aimé cette franchise. Et quand je regardais même, en fait, le fait d'être en Floride, à Orlando, j'adorais aussi la Floride. Donc, je me suis dit, c'est bien. Miami, je me suis toujours posé la question, parce que Orlando, ça fait plus famille. Même si ça fait plus famille, ça fait plus posé, alors que Miami, ça fait plus débauche.
Donc, ouais, ouais, c'est connu, hein. Vice ouais. City, hein. Ouais. D'accord. Voilà. Bon, t'as bien fait de pas aller à Miami. Alors, par contre, tu leur faisais des gros cartons dans la tronche, hein. Enfin, je m'en souviens parce que.
Bravo, bravo.
Je suivais tous leurs matchs et tu leur as fait quelques sales coups quand même. Bravo à toi.
Ah non, mais le but, c'était de défoncer tout le monde, dès qu'on jouait contre eux ou dès qu'on jouait. C'est ça le but, parce qu'à un moment, j'avais un coach, mon premier coach, Philip Sanders, qui disait tout le temps, il n'y a pas de mauvais joueurs. Il y a des mauvaises équipes, mais il n'y a pas de mauvais joueurs. En NBA,
ouais,
tout le monde pour être là a dû à un moment prouver quelque part, a dû taffer quelque part. Personne n'est arrivé ici par hasard.
Ouais.
Et en parlant de coach, tiens, je vais rebondir dessus. Est-ce que jeune ou autre, t'as un coach qui t'a marqué ? Alors, pas forcément NBA, mais un coach qui t'a pris, qui t'a appris les fondamentaux et que sans lui, t'aurais peut-être pas percé. Ou alors, c'est vraiment les coachs NBA qui sont vraiment au-dessus de tout, tactiquement, techniquement.
Bah, pour être honnête avec vous, j'ai jamais eu la chance d'avoir un coach NBA qui a actuellement pris le temps et qui est venu s'entraîner avec moi et qui m'a dit « Kevin, je vais te rendre meilleur ».
Ah ouais ?
Non, parce qu'en fait, quand tu arrives là-bas, et puis après, encore une fois, il faut comprendre un contexte. Hein. Moi, je suis français, je suis européen. J'ai toujours senti cette barrière où j'ai toujours senti que, oui, t'es en Amérique, mais t'es français, on le sait.
Ah d'accord, ok. Ça, tu vois,
franchement, c'est... Après, c'est un sentiment, hein. C'est vraiment en fonction de ce que j'ai partagé, c'est pas tout le monde qui va vivre ça, mais je sais que pour avoir parlé avec beaucoup de Français qui ont joué aussi en NBA ou des choses, on est tous clairs sur ça. À un moment, t'as conscience que t'es
Français.
Que t'es américain, que t'es pas américain, et en fait, on te le sait, c'est pareil, je suis parti à Barcelone jouer en Espagne, on te le fait, tu le sais que t'es pas. C'est pour ça qu'il y a qu'en France où vraiment on adore les Américains, on les met sur un pied des salles, et toujours je trouve ça dommage parce que quand tu vas à l'extérieur, en tant que Français, quel que soit ton niveau, parce que je respecte le NBA, on ne traite pas forcément comme un Américain, comme quelqu'un de chez eux. Donc à un moment, sur ça, mais maintenant, en termes de coach, non, mon premier, dans ce cas, si je dois parler de coach, c'est mon premier coach à Cholet, Herman Kunter. C'est lui qui a pris le temps de me lancer, qui a mis
Jim
Bilba, ancien joueur.
Ah ouais,
Bilba.
Donc c'est Jim qui était chargé de s'occuper de moi. Le matin, on venait, on s'entraînait et tout. On venait 1h30, 2h avant la salle. Et c'est ce coach-là. Après ça, une fois que je suis arrivé en NBA, une fois que je suis arrivé en pro, jusqu'à ce que j'arrive au Barça, j'ai pas eu un coach où j'ai senti que j'étais aimé, où j'étais plus aimé, où j'étais spécial. J'étais comme tout le monde et on avançait.
C'est peut-être aussi le fonctionnement de la NBA, en fait, parce que les head coachs en NBA, en fait, je pense que les joueurs les croisent pas beaucoup. Enfin, vous avez peut-être plus à faire.
Encore une fois, c'est là où c'est un monde, en fait. Faut comprendre que ça reste un business et ça reste. Une ligue, ça reste les États-Unis. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui prime. Déjà, c'est l'argent. Et la première chose, c'est la célébrité. Donc, quand vous avez forcément des grosses stars, ben, vous allez voir le head coach venir lui donner tous les conseils.
D'accord.
Les conseils. D'accord. Et surtout quand il y a les médias, il a encore plus de conseils à lui donner. Voilà. On entend tout et n'importe quoi. Marche bien. Ton pied, il a 90 degrés. Il devrait t'attendre.
Ah oui, d'accord.
Alors, on entend tout.
C'est génial. Mais,
Il n'y a pas d'entraînement aussi en NBA, d'après ce que j'ai compris.
En saison régulière.
On
s'entraîne tout le temps. Sauf que la différence comparée à l'Europe, c'est qu'on s'entraîne une fois par jour. Donc on a un seul bloc, qui commence généralement à 11h, et on va jusqu'à 15h. À 15h, il y a soit, si les gars qui restent, c'est les gars qui vont faire les soins, le jacuzzi, le kiné. Mais nous, on a de 11h à 15h, donc généralement, ça se programme comme ça. On arrive, généralement, les gars, ils arrivent 2h avant. On va en salle de muscu, vous allez en salle de kiné, donc en salle de muscu, vous pouvez y aller de 9h à 10h, de 10h à 10h30, vous êtes en kiné, vous assurez que tout va bien, et après vous allez sur le terrain, généralement il y a des gars qui sont d'un contre un, ils jouent, et ça commence déjà un peu à se chauffer, et quand on arrive à 11h, on commence l'entraînement, on a généralement peut-être 30 à 45 minutes de système, donc on répète les systèmes, il y en a beaucoup, il y en a au moins, dans l'année, il y en a au moins entre 60 et 90, hein.
Mais est-ce qu'il y en a un pour toi au moins ?
Ouais, c'est ça.
Faut avoir. Oui, moi honnêtement, en tant que dans toutes les équipes où j'ai été, j'ai toujours eu des systèmes pour moi, vu que j'étais un joueur capable de scorer et faire des choses. Et moi, honnêtement, il y avait en tout cas des systèmes pour les bigs, parce que c'était pas spécialement pour moi, mais pour le 5. Et il y en avait pas mal. Donc moi-même, quand je sortais en deuxième minute, donc je commençais jamais les matchs, mais je sortais, j'étais le premier, j'étais sixième homme généralement, et j'avais tout de suite des systèmes appelés pour moi pour que je sois dedans. Et puis après, c'était vraiment là où j'avais pas de chance. Ben, si ce soir je suis dedans, ben, je marque tout de suite et j'enchaîne et ils me laissent sur le terrain. Ouais. Si jamais je suis pas dedans,
pas traité.
C'est des 2 minutes et plus, c'est shorté. Ouais. Donc c'est simple.
Et si j'ai bien compris, ça marchait bien contre Miami surtout.
C'est clair. T'exécutais très très bien contre Miami.
J'ai peut-être toujours inconsciemment voulu à Miami.
Ah bah ça doit être ça.
Je sais pas si t'as vu, tiens, il y avait à l'occasion, il y avait une interview de la Gershon Yabusele chez First Team.
Oui.
Et si vous avez l'occasion de l'écouter, c'est vachement intéressant parce qu'il est vachement, il est super honnête sur le fonctionnement.
Et comme toi un peu. Vous êtes très cash en tout cas.
Ouais. C'est
vachement.
Et moi j'avais d'ailleurs entre parenthèses, j'ai toujours adoré tes interventions chez eux parce qu'à chaque fois t'es cash, enfin même tu parles cash d'ailleurs d'argent, tu parles assez clairement d'argent en NBA, ce qui est quand même un truc assez
un peu tabou en France
quoi.
T'as raison, pourquoi je suis comme ça, pourquoi moi ça me dérange pas d'être comme ça. Pour moi j'étais en centre de formation. J'ai l'impression qu'on m'a bourré la tête de conneries, en fait. On m'a dit, ouais, tu verras, les pros, c'est comme ça. Limite, on m'a fait croire qu'un pro, il allait se tous les soirs à 21h. Et en fait, quand je suis arrivé en pro, et je suis arrivé dans cette jungle, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et il y a plein de choses. Et c'est pour ça que je me suis dit, il y a eu un choc parce que j'ai dû m'adapter au niveau pro, alors que si j'étais déjà préparé, peut-être que je serais arrivé plus près. Et en fait, donc c'est pour ça, à un moment, que j'ai dit, bah, vous savez quoi, si je parle aux jeunes, si je dois parler aux gens, j'irai la vérité, sinon je parle pas.
Bah, c'est très très bien. Bah, justement, une question un petit peu, action ou vérité, mais c'est plutôt vérité. Qu'est-ce qui est le plus dangereux dans une carrière de joueur NBA, hormis les blessures, bien sûr? Qu'est-ce qui est
l'entourage.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Ah, oui. L'entourage.
Ouais. Ouais. T'as des mecs qui gravitent l'entourage autour de toi.
Bah, vous savez, hein, les mauvaises décisions prises à 1h du mat, c'est généralement t'es avec un entourage qui, si t'as un bon entourage, on te dit, va te coucher, en fait, y'a rien à faire.
Et maintenant, en plus, il suffit que tu sois filmé et puis après, t'es sur les réseaux sociaux à dire des conneries.
C'est exactement ça. Et l'entourage, moi, pour moi, c'est la première chose parce que ils sont tous les jours avec le joueur. Et en fait, si t'as un mauvais entourage, ben, ils t'emmènent, ils voient pas forcément qu'à des moments, il faut se reposer, ils veulent toujours t'emmener dans une ambiance, il y a toujours des femmes à choper quelque part, il y a toujours des trucs à faire. Ouais. Et forcément, c'est pas la bonne chose. Mais pour moi, c'est la première... Quand je regarde, par exemple, un environnement où même avec les Clippers, j'ai eu l'occasion d'aller scouter différents joueurs, l'une des premières bases, en tout cas, c'était de savoir son entourage et qui est autour de lui. Est-ce qu'aujourd'hui, il a une famille? Est-ce qu'il est avec un papa célibataire? Il a une maman célibataire? Les parents sont ensemble? Les parents sont pas ensemble? La maman, elle est de quel groupe sanguin? Le papa, il fait quoi? Le papa, il fait quoi dans sa vie? Il est quoi?
Ah ouais, la vache, c'est une enquête.
À la draft, d'ailleurs, il y a un gros boulot là-dessus.
En fait. C'est exactement ça.
Les grands entretiens pré-draft, en fait, c'est vachement poussé là-dessus maintenant. Les entourages, les...
James Harden, il passerait plus.
En fait, faut comprendre que en fait, la NBA, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ils peuvent donner beaucoup d'argent. Ils peuvent changer littéralement la vie de quelqu'un. Donc à un moment, c'est pour ça qu'il faut aller. Pour être même honnête avec vous, j'ai même entendu que Victor, il y avait des agents, il y avait des détectives privés. Les scouts, ce ne sont pas juste contentés des scouts. Ils ont engagé des détectives privés pour voir le rythme de sa vie. Comment ils se passent chaque. Ils savent qu'il y a beaucoup d'argent à se donner. Et à un moment, il fallait être sûr qu'on ait le bon gars, en fait.
Ouais. Tu peux pas te... Il y a des grosses sommes, donc il y a des gros enjeux, effectivement.
Et est-ce que les stars avec qui tu as joué, elles sont sympas? Parce qu'en fait, on se rend compte. Nous, on se rencontre toujours des gens, ils ont l'air aigris ou quoi que ce soit. Mais moi, je suis sûr que. Je sais pas, mais John Wall, il doit être sympa, non?
John, quand je suis arrivé avec lui, c'était un gamin de 19 ans. Donc, du coup, on était tous jeunes et il a eu ses zones, il a eu ses trucs. On s'est pris la tête plus d'une fois, hein, moi et John. parce que, mais au final, peut-être la première année, on s'est pris la tête. Et à partir de là, les 5 ans jusqu'à ce que je parte à New York en 2015, à chaque fois qu'on sort, moi je suis souvent avec lui, John. Il y a plein de situations où je suis avec lui. Il sort en boîte, je suis avec lui. Il sort là, il va à un truc, je suis avec lui. Je vais chez lui ce soir. Il a 3 TV, donc il est assez sympa. Honnêtement, la plupart d'entre eux, que ce soit Tony Parker, même Carmelo Anthony, sur lequel j'ai souvent parlé, Carmelo. C'est juste que moi, on n'était pas amis, c'est tout. D'accord. Mais maintenant, comment il traitait les autres et comment il est avec le truc. Honnêtement, Carmelo, tous les jours quand il arrive, ça reste quand même quelqu'un de lumineux. Il vient tous les jours, il est souriant, il a une bonne énergie. C'est juste que nous deux, on n'était pas amis parce qu'il voulait absolument imposer sa dictature et je voulais pas.
Ah, t'avais un peu de caractère, voilà, quoi.
Bon, on va te balancer.
J'étais plus du côté rebelle, voilà pourquoi.
Voilà pourquoi. Mais il faut. On va te balancer. On va faire une petite pause musicale dans quelques instants. Mais je te balance vite fait quelques questions et tu dois répondre du tac au tac. D'accord ? T'es prêt ?
Vas-y.
Le joueur le plus con. Le joueur le plus con.
Le joueur le plus top que j'ai eu.
Sur un terrain.
Ouais. Attends, on va dire Tennessee sur Antetokounmpo. Allez.
Oh putain. Ah, j'adore. Ok. Le plus sympa.
Le plus sympa, Paul George.
Ah, ouais. Ah bah tiens, tu vois. Parce qu'ici, il
prend
cher. Il y a des tracteurs à chaque fois.
Ouais, mais...
Moi, j'aime bien Paul George.
Je sais que Playoff P prend cher, mais ça reste un bon gars.
Okay.
Ça reste un bon gars, les gars. Soyez témoins avec lui. Ok.
Le plus intelligent.
Le plus intelligent, Boris Diaw.
Ah ouais, bon, c'est cohérent.
Ça correspond.
Ouais. Le plus loufoque. Déjanté,
le plus loufoque.
Si tu veux. Ouais, déjanté.
C'est quoi son nom? Nicholson, un blanc. C'est quoi son nom? J'ai joué avec lui. Bon, je ne me rappelle plus de son nom.
Il était loufoque. Il a plus brillé pour ses conneries que pour sa carrière, visiblement.
Hein, bah, en fait, non, c'est juste qu'il était spécial. Moi, j'ai toujours dit au mec, un jour, vous attendez pas à ce que... Si un jour, il rentre avec une mitraille, c'est une tertuse dessus. C'est pas surpris. J'ai toujours prévenu les mecs. J'ai dit, je vous préviens. Je suis avec un gilet pare-balles. Je viens avec un gilet, on sait jamais. On ne sait jamais. On était au Wizard, il y avait eu l'histoire de Arenas en 2009.
Ah ouais.
On ne sait jamais.
Ok, bon, moi, je vais encore le plus drôle.
Le plus drôle, pas le pire.
Paul Pierce, ah ouais. D'accord, ok. Ouais, tu fais plaisir à Bruno.
Il y a plein d'histoires que je pourrais jamais vous raconter en radio.
Ah, mais c'est pas grave. On va se voir au mois de juillet, t'inquiète pas.
C'est un personnage, c'est franchement quelqu'un qui s'assume et qui est dans son personnage et qui l'accepte. Pour vous donner une histoire, un jour, on est dans l'avion, il me dit, j'ai un truc à te montrer. Je dis, mais qu'est-ce que t'as encore fait? Et il me montre. Et on était l'année des Wizards, il avait tourné un clip, et il avait un clip, il y avait Dinana dedans, il était tout seul avec des grosses lunettes, et il était en peignoir, et il s'enjaillait dans le clip, et je lui dis, mais c'est un malade, mais à quel moment t'as fait ça? Il me dit, ça, j'ai fait ça hier soir.
À l'arrache.
Je lui dis, mais t'as déjà le montage? Il a dit, mais attends, qu'on paye, tu penses que je vais attendre 48 heures?
Bah, c'est excellent.
Et enfin, la deux... Vas-y.
C'était imprévisible. Paul, il arrivait le matin et il pouvait dire que ben, demain, il a acheté tout un business de fourmis. Et en fait, il était imprévisible.
Ok. Excellent, ça.
Et deux petites rubriques avant de mettre le son, là. Tu dois juste t'amuser, tu te mets sur le côté, tu prends du pop-corn et tu mets ton 5 kiffance, tu vois. Tu mets 5 joueurs où tu sais que tu vas t'amuser, tu vas prendre du bon temps. Il va y avoir des actions de dingue tout le match. Tu mets qui dans ton 5? Parce que souvent, on fait le 5... Des All-Stars, mais moi ça m'intéresse pas. Juste les 5 gars que tu mets sur le terrain et tu
kiffer.
Sais que tu vas kiffer.
Je sais que je vais m'amuser, je vais rigoler.
Ouais.
C'est dur.
Bon, John, je le mets. John, je le mets en point de garde.
John Wall.
Ouais.
Ouais.
En shooting guard, je mets Garrett Temple.
Garrett Temple, ouais, ok, d'accord.
Ouais.
Qui a joué au Wizards.
Vous m'avez parlé des gens à qui je m'amuse.
Ah, ouais, bien sûr. Hein. Ouais.
En 3, je mets Paul Pierce.
Ouais.
Paul, vous rendez pas compte à quel point il était marrant.
Il était bon aussi.
J'ai jamais vu un mec qui arrive à garder tous les mecs 2 heures après à l'entraînement. Vous rendez pas compte. Il y a des fois, on était.
C'est un phénomène.
Je l'ai découvert en pré-saison. J'étais content qu'à ce moment-là, en 4e année, je parlais super bien anglais parce que si je parlais pas anglais, j'aurais tellement loupé de choses.
Ah, toi, tu m'étonnes.
Et en fait, le mec, il est incroyable. Dès qu'on arrivait, il gardait tout le monde 2 heures après. On est là, on a fini à 15h, 17h, 17h30, on est tous toujours là en train de parler avec lui, de rigoler. En poste 4, je ne mets pas Néné. Néné, il est grincheux. En poste 4, je mets Boris Diaw.
Ok. Ouais.
Boris Diaw, honnêtement, il m'a toujours. Moi, il me régale. Hein. Il est toujours de bonne ambiance. Et en 5, qui je mettrais en 5 qui va me faire actuellement rigoler? Gortat.
Voilà. Ah, merci Gortat.
Ah, oui.
Ouais.
Gortat, on avait souvent un problème avec lui parce qu'en fait, il se baladait souvent torse nu et ça dérangeait tout le monde.
Agitant.
Il arrivait à 7h du mat. Ça, c'est normalement, il était discipliné, il arrivait à 7h du mat, on avait entraînement 11h. Il faisait 2h de muscu. Et après, il se baladait partout avec toutes ses veines et on lui disait pourquoi, mais pourquoi tu mets. Mais.
Habille-toi. Il arrive à pécho quand même, au moins, Marcine.
Non, mais lui, totalement. Et il était, donc c'était ça. Et à chaque fois, donc c'est souvent le débat et ils s'embrouillaient souvent avec Ariza et Paul Pierce. parce que les mecs disaient tout le temps, mais pute, chialon. Et en fait, là, on est jaloux de ses muscles, on est jaloux de ça, nana. Et après, ils sautaient toujours sur des choses assez aléatoires. Ils disaient, ouais, mais moi, de toute façon, quand je vais rentrer en Pologne, vous n'entendrez plus parler de moi. Mais je dis, mais pourquoi tu me dis autant de choses?
Le marteau polonais.
C'est
marrant.
Excellent. Okay. C'est excellent parce que. Faut que tu saches que forcément nous ici, que ce soit les jeux vidéo, les matchs, les discussions, en fait on a une image des joueurs, une certaine image en fait qu'on nous donne en fait aussi.
Carrément.
Et entendre tout ça, c'est très drôle de dire que Paul Pierce c'est un déconneur, que Paul George il est super drôle, machin et tout. Enfin c'est assez marrant parce que je pense qu'on n'a pas cette image ici. Donc c'est très rafraîchissant d'avoir ce genre de retour. Et à mon avis, je pense que nos gamins de la Croix seront très contents de te poser ce genre de questions.
Ah ouais, tu vas en avoir quelques-unes.
Ah non, mais les mecs, de toute façon, il faut comprendre un truc. Hein, la plupart des mecs, ils sont cool. Après, encore une fois, pour les fans, malheureusement, c'est quand t'arrives dans sa journée. Si le mec est avant ça, souvent, parfois, t'as même des fans qui sont relous, qui sont chiants, et puis ils peuvent énerver un mec. Donc toi, t'arrives après, tu prends une croûte. Alors qu'en soi.
Ouais, c'est des mecs cool.
Le mec,
ouais.
Il est cool, en fait. C'est juste que là, il y a eu un mauvais. Comme n'importe qui dans la vie, en fait. Ouais. Et moi, oui, je cherche à faire comprendre aux gens, des fois, que oui, les mecs, il y a des personnages, il y a le joueur NBA qu'on voit, mais derrière ça, il y a des mecs qui sont cool, il y en a qui sont actuellement vraiment délirants.
Ok.
Et on va finir avant le petit morceau musical par un petit tu préfères, mais je t'ai mis un spécial pivot parce que honnêtement, ça va bien t'aller. Et tu n'es pas obligé de te justifier, hein, c'est juste un tu préfères. Tu préfères Rudy Gobert ou Dikembe Mutombo ?
Rudy Gobert.
Rudy Gobert ou Pogasol ?
Pogasol.
Ah,
Pogasol ou Ben Wallace ?
Ah, ben attention.
Pogasol.
Oh, Pogasol ou Dwight Howard ?
Pogasol.
Oh. Ah,
Pogasol ou Joel Embiid ?
Joel Embiid.
Oh, Joel Embiid ou Karim Abdul-Jabbar ?
Ouais, tu montes là.
Karim Abdul-Jabbar.
Ah, ok. Ouais. Abdul-Jabbar ou Victor Wembanyama ?
Victor Wembanyama.
Ah, Wembanyama ou Olajuwon ?
Ah, par contre, maintenant, je resterai. Si tu mets que Victor, je mettrai que Victor.
Ah, ouais. Voilà. Ah, j'avais encore Olajuwon, O'Neal et Jokic.
Ok, donc vas-y, continue.
Entre les quatre, tu prends qui là ?
Non, je prends toujours Victor.
Ah, toujours Victor. Ah, ok, bah après, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Mais on va y revenir après le.
Au-delà de ça, je sais pas, beaucoup de gens savent pas, mais. J'ai eu l'opportunité de m'entraîner avec lui il y a 3 ans et j'étais avec le Valois l'année où il était à le Valois.
Ah ouais ?
Donc je suis venu m'entraîner avec eux à la demande de Vincent Collet. Et ce que j'ai vu de ce gamin, je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs. J'ai vu Pogasol jouer, j'ai vu Dwight, j'ai vu tous les joueurs que vous indiquez. Chaque, je l'ai vu jouer, mais c'était en fin de carrière en 2011 à Boston. Mm-hmm. Mais je n'ai jamais vu ça. Victor, c'est exceptionnel. C'est un gamin différent à l'extérieur.
Il n'est même pas encore à son prime en plus. Ouais.
C'est ça, il n'est pas du tout à son prime.
Mais comme moi. Moi, je ne suis pas dans mon prime non plus encore, les mecs.
Non, mais c'est exactement. Moi, moi, d'après mes calculs, je me suis dit, dans 2 ans, tu es à ton prime.
Ah ouais, ça ne m'étonnerait pas. Ah. Ouais. Tout ça. Je serai à 50 ans, pile poil. Et Victor, dans 2 ans aussi,
voilà,
à mon avis.
50 ans, c'est... Voilà. Ouais.
On va te voir.
Mais Victor, en tout cas, oui, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et même sur le basket, sur ce que j'ai vu, en fait c'est pas juste un grand, c'est un grand qui est un bon basketteur. Et en fait, on se rend pas compte à quel point ça change énormément de choses. Le fait de pouvoir shooter à cette taille, il a la même capacité qu'un mec un petit, mais en fait, il est capable de le faire à une grande échelle. Et c'est pour ça qu'on le voit, de toute façon. Il est en train de tout rafler, il est en train de tout prendre. Et pour moi, il y a maintenant, si on parle en termes de joueurs, si je choisis, maintenant, il y a des joueurs forcément dans des points comme Shaq qui ont dominé plus physiquement sur eux. Mais... Victor, c'est pour moi, je pense que le basket ne sera pas mieux. Je ne sais pas, on n'aura pas mieux que Victor.
Ok, alors, il est temps de faire notre petite pause musicale. C'est Buffa, vas-y.
Okay.
Et puis, on te reprend après. On va parler plus spécifiquement des finales
NBA.
Des finales NBA juste après. C'est parti avec un petit son. Buffa, c'est quoi ?
On verra bien.
Allez, à tout de suite.
À tout de suite.
situations. We're at the station, you need to chill. While I bring you up to date, you're still on some 9-4 shit. Well, I've been rolling around in 98. The further, foresee the future. Still the grab mover, new brand to Buddha. Maneuver miracles, like my name is Jesus. New type of shit, grip it like seizures. Now I hold the mercy, people wanna curse me. You better take a run, hop, skip, and a jump like Jackie, join the curse. Still hungry and thirsty, still pay dues. I need some paper to reimburse me. Cause ain't nothing changed except the weather. Still remain the same, but my style get better. Eyes get redder when we in the cipher. The new school dean, you best push up your life.
It's non-conceptual, non-exceptional. Everybody's either crime-related or sexual. Non-conceptual, non-exceptional. Everybody's either crime-related or sexual.
Starlight, when these guys bless me with lyrics, come straight from the heart without no fake gimmicks. Too many microphones is being abused by fake MCs who don't pay their dues. And they got no clues about microphone skill. Shouting all the gangster blah blah to keep it real. How I keep it real is this love for the art. So it don't matter where you're from, it's what's in your heart. Then came into the hedge finding robs at night. By the lamp light, maybe got hella light. But if not, you know it don't matter none. Cause you elevated off these ill rhymes that you done. It's the late night special on the low level. Suckers want the medal, but I just stay settled. And enter my vessel, the journey to well drawn. Show you how I rock it, y'all, all night long. It's impossible.
Impossible for you not to follow. Every single rhyme I spit, they have to swallow. You're hollowing your heart, so don't stop. Like Lewis Parker, I'm damn true to this heart. Yes, it's day like robbery. When I'm smoking up a fat shrubbery, your heart turns rubbery. You're not coming close to me, an MMC, the epitome of reality. Life is a fallacy in all actuality. I surround you like the universe, snatching up your purse. I curse with profanity. Only a sane man could know about true insanity. In actuality, it's all about my dark rap. I'm coming through NFCs, them need to stop talking crap.
Merci Buffa, c'était très bien. Vous écoutez Money Time, votre émission basket sur Graphite 94.9 sur la bande FM. Et tout de suite, nous allons passer au final NBA. Voilà, c'est fini. La NBA a rendu son verdict. Les Knicks de New York ont mis fin à une disette de 53 ans sans titre. La ville a fait la fête, la parade a été suivie par des millions de personnes. Pour ma part, je suis heureux pour Anunobi, qui a fait une série de patrons. Le général Brunson a été clutch comme d'habitude. Kat a prouvé au monde que ce n'était pas qu'un pivot shooter, mais un très bon joueur et passeur. Et le reste des soldats a été plus qu'au niveau. Leur mental, prêt à tous les scénarios, a fait la différence contre une équipe valeureuse, mais défaillante dans des moments clés, dont la gestion de la fin du match 4, dont moi, je me suis toujours pas remis.
Ah, une expérience.
La dernière minute, elle est terrible pour si les Spurs. Mais du match 4, elle est terrible. Ah, oui.
L'expérience se remplace pas dans un match de basket à un moment.
L'expérience, c'est Fox qui a le ballon quand même. Enfin, tu dois
plus expérimenté.
Ouais, tu dois être. On est toujours en compagnie de Kevin Serafin sur nous, qui va nous donner son avis quand même sur la finale et cette fameuse gestion.
À ce moment-là, c'était plus un faute, c'est plus une loutre. Pour moi, c'est une faute professionnelle ce qui s'est passé.
Alors, tu sais que j'ai écrit bien différemment, mais je me suis dit que j'avais Kevin Serafin et que j'ai pas lu exactement ce que j'avais écrit.
Cette finale, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, ancien joueur des Knicks d'ailleurs? Question fondamentale, Knicks un jour, Knicks toujours ou quoi?
Knicks un jour, Knicks toujours, mais j'aurais quand même aimé voir Wemby aussi gagner. Donc j'étais partagé entre les deux, parce que quand même depuis le début des playoffs, je suivais quand même les Spurs. Les Knicks, c'est vrai que j'ai regardé peu de séries 2. Bon, je l'ai fait avec Amazon, donc j'ai commenté certains matchs des Knicks. Je regardais pour Victor, pour les Spurs. Donc maintenant, là où c'est cool, c'est que oui, je me suis retrouvé avec une finale que je ne pensais pas que je voulais. Et au final, oui, je suis quand même content pour New York. Et quand je vois l'ambiance qu'il y a dans la ville et comment c'est carrément parti en couille, je vous le dis.
Oui. C'est fou, les images, elles sont déliantes. Oui. Et aujourd'hui, c'est demain la parade.
Nuit, mais je ne sais pas trop. Mais...
Donc quand même, ça reste bien pour les Knicks parce qu'en fait, c'est pas comme si on a eu en face, on avait les Warriors ou Denver qui avaient déjà gagné plusieurs fois ces dernières années et on savait que, ok, bon,
c'est pas grave, c'est pas si symbolique que ça. Là, ça reste quand même symbolique parce que New York, ça fait quand même longtemps qu'il n'y a pas eu un titre.
53 ans.
Ça fait longtemps que les New Yorkais attendaient ça. Ouais. Moi, je suis passé, j'ai été dans ce process. Il y a eu des choses qui ont été mises en place. Ouais. Je sais que moi, qui cherchais à ajuster, que ce soit. Et à tous les niveaux, personne n'était safe à New York, que ce soit le GM, que ce soit le coach, que ce soit même le. Ensuite, Jackson, il a fini par sauter. Personne n'était safe et parce qu'ils cherchaient à un moment la bonne combinaison, le bon staff de coach, la bonne équipe. Et c'est vrai qu'ils ont un peu changé ça, où je vois que les gars, ils ont l'air plus des fines équipes. Nous, quand on y était, j'ai l'impression qu'on avait mis 13 gars dans une pièce et on les a forcés à jouer.
Ouais, c'est ça. Puis on faisait reset régulièrement à New York. Je veux dire qu'on n'avait pas de continuité. Donc, là, c'est un groupe qui a vieilli ensemble pendant 3-4 ans. En plus, il y a l'expérience de Villanova, où on le disait, quoi, tu le disais en intro. Voilà, donc il y a une espèce de continuité. Et puis, bah, c'est un beau champion, franchement, non ? Jacques, ouais. Pas un beau champion ?
Je suis un peu
mitigé
parce que, évidemment, ils ont montré un courage énorme parce qu'ils ont renversé des situations folles pendant les playoffs. Et ça, c'est le cœur du champion. Ça, c'est ça, tu touches pas. Par contre, je joue au basket. On est basketteur, donc c'est très compliqué de se dire comment tu peux lâcher un match comme ça, en fait. Comment tu peux faire n'importe quoi en fin de match et pas garder le ballon. Enfin, c'est dur. Hein,
c'est ça qui est choquant.
Je suis content pour New York, hein, mais basketement parlant, c'est ça. Quand tu regardes ton basketteur, tu te dis mais comment c'est possible
Comment tu gardes pas la balle à la fin, comment
tu passes en dessous le panier, tu gardes le ballon.
Tu tournes en rond.
Moi, j'ai une question. Tu t'appelles comment?
Jacques, je suis d'ailleurs un de tes assistants qui sera sur le clan Slam Elite de la Croix-Saint-Ouen. Et mon fils m'a demandé de faire un contre un contre toi.
Tu vas le repérer, c'est le seul mec qui peut te regarder dans les yeux en niveau de taille.
Donc tu vas bientôt ressentir la puissance camerounaise.
Je sais pas qui t'a demandé ça, mais cette personne t'aimait pas tant que ça. En fait. Pour moi, ça m'a surtout prouvé qu'en fait cette situation avec les Spurs, c'est qu'en fait même Victor avec tout son talent, l'expérience encore une fois est primordiale dans tout. Et on le voit que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde de la vie, dans partout, on le voit qu'en fait l'expérience quand même reste l'expérience. Et à un moment, quand t'as une fin de match, en fait je peux pas leur en vouloir. Je leur en veux parce que forcément, même il y a un match où t'as 29 points d'avance et tu le blows et tu
t'es rattrapé,
mais en fait, on se rend compte surtout que l'équipe, elle est jeune. C'est sa première fois en finale, la première fois en playoff pour la plupart des joueurs.
C'est clair.
Et je pense que la vraie erreur, vraiment en examinant les choses, c'est en fait, ça a peut-être été l'explosion quand ils ont gagné la finale de conférence contre OKC.
Ouais, c'était tellement...
Ils ont vraiment tout lâché à ce moment, alors qu'ils auraient dû, pour moi, rester encore.
C'est tellement dur de sortir de la conférence Ouest, en fait, l'énergie, ils ont tout sorti.
De toute façon, Victor a été cramé sur la moitié des matchs, sincèrement, sur les finales.
Ouais, ça avait été dur contre OKC déjà, hein, le fait de les taper.
Faut voir.
Tu te dis, quand même.
Je crois qu'au final, ils ont joué 5 matchs de plus, je crois, que les Knicks. Parce que les Knicks, ils doivent faire un run à 13-3. C'est Atlanta qui leur prend 2 matchs, quoi.
Ouais, c'est clair.
Incroyable.
Et puis, de l'autre côté, ils en font 5 matchs de plus, les Spurs. Et ça se voit, quoi. En finale, il y a aussi ça qui se voit, quoi.
Moi, j'ai une question un peu plus technique, parce qu'en tant que pivot, tu as dû te faire un petit peu bousculer dans la raquette. Mais où est la limite sur Victor, en fait? Tu vois, les joueurs, parce que moi, en tant que suiveur de la NBA, je me dis franchement que des fois, c'est bien limite, quoi. Quand ils commencent à mettre les deux mains sur les hanches et pousser tout ce qu'ils peuvent, je me dis, oui, OK, ils jouent loin de la raquette, mais parce qu'ils ne peuvent plus y aller, arriver à un moment. Ils n'y arrivent plus physiquement. Mais pour moi, c'est plus du basket à un moment.
En fait, bon, si je peux vraiment... Bon, pour expliquer ça, je comprends d'un côté pourquoi ils en arrivent à là, en fait. Il faut se rendre compte que en face de nous, on a un mec qui fait 2,26, 2,24 officiel, mais moi je pense qu'il fait 2,28.
Tout le monde dit ça. Tout le monde dit qu'il est plus grand.
2,24. Voilà. Et en fait, au-delà d'être grand, comme la plupart qu'on a eu, la plupart qui étaient grands, il joue au basket. Ça veut dire que c'était même petit dans sa jeunesse. Ça a été un ailier qui a fini par grandir, à pousser. Au final, bon, il se retrouve à pouvoir dribbler, à faire des choses. La plupart des grands généralement sont pas. Et en fait, c'est pareil, quand on me disait, la NBA, à un moment, ils vont devoir mettre des règles pour limiter Victor. Ben comment? Parce qu'en fait, Victor ne bénéficie d'aucune brèche. Ça veut dire que lorsqu'on se plaignait et qu'ils ont dû changer les règles pour Harden, pour même là, Shai, ce qu'il fait par rapport au flapping,
ils utilisent une faille du système pour avoir quelque chose de plus.
D'accord.
Aujourd'hui, Victor ne triche pas. Victor est juste un basketteur qui est au-dessus des autres. Il y a, aujourd'hui, on ne peut pas augmenter, on ne peut pas augmenter l'anneau, parce que ça pénaliserait tout le monde en même temps. On ne peut pas d'un coup l'empêcher d'entrer dans la raquette. Il n'y a aucune règle vraiment qu'on peut mettre pour stopper Victor. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est laisser jouer les joueurs. Et les joueurs, ils sont obligés d'arriver. C'est comme, en fait, c'est comme jouer comme son petit frère. Et votre petit frère, au bout d'un moment, ben, si vous jouez franchement les règles et vous le dominez, il ne va plus lui jouer les règles, en fait. Et ils arrivaient à ça où, en fait, donc la limite, elle est, pour moi, la limite, encore une fois, elle est qu'il faut que ce soit juste. Il faut, lorsqu'il y a faute, il y a faute. On appelle la faute. Lorsqu'il n'y a pas faute, des fois, oui, des fois, on a eu le sentiment qu'il y a eu des calls. Pour moi, la NBA, ils étaient confus. À partir du moment que Victor a mis son coup de coude contre Minnesota, j'ai eu l'impression que la NBA ne savait plus, parce qu'en fait, ça reste quand même une superstar et il sera, je ne sais pas s'il sera l'image de la Ligue, parce que ça reste un Européen. Je ne sais pas s'ils en sont là, en fait. Pour moi, je ne sais pas s'ils en sont encore là pour laisser un Européen actuellement être l'image, quand je vois comment tout le monde parle. Je ne sais pas. Je sais pas sur ça, donc je me dis maintenant, mais en tout cas, c'est un joueur qui prend de l'ampleur, c'est un joueur qui a aujourd'hui son mot à dire. Dès qu'il ouvre la bouche, il le fait beaucoup, mais dès qu'il va parler, en tout cas, sur les choses, ça va être concret, ça va être clair. Donc la NBA sait qu'en tout cas, ils peuvent pas ignorer Victor. Donc à partir du moment qu'il met le coup de coude, bah, j'ai l'impression que le match d'après, tout est sifflé pour lui.
Ouais.
Quoi qu'il fasse.
Je suis d'accord. Ouais.
Et après, ils ont l'impression qu'ils sont peut-être trop emportés. Et le match après,
ils repartent dans l'autre sens.
Et personne ne dit rien. Et j'ai l'impression que ça a duré comme ça. Et quand on arrive à l'épisode d'OKC, j'ai l'impression qu'au début, ben, ça appelle. Il commence son premier match à 40 points, 24 rebonds. Et donc tout est appelé dans sa direction. Tout va. Et après, j'ai l'impression qu'ils se disent, ben, en fait, il faut qu'on rééquilibre. Donc le match après, il se fait savater, ou du coup, ben, leur intérieur se fait éjecter parce qu'il perd les cheveux de Cassol, il met des coups. Donc
Hartenstein,
il se fait éjecter. Et à partir de là, j'ai l'impression que c'est yo-yo. J'ai l'impression que les arbitres, chaque match, ils avantagent un match. Donc on voit OKC prendre un match. Après, on voit les Spurs en mettre 20 points.
Moi, sur cette série, j'ai été très frustré par l'arbitrage. Comme tu dis, il n'y a pas un match qui était pas arbitré dans la continuité. Et un coup, c'était trop de call pour Victor. Le match d'après, il pouvait lui attraper la jambe et il n'y avait pas de coup de sifflet. Et je trouve que cette série a été un peu gâchée. Mais,
alors, je suis désolé de faire le relou parce qu'il y a un mec aux manettes qui nous fait des grands signes. Il faut qu'on termine l'émission. Du coup, Kevin, on va te remercier. On va parler du Stapcamp Elite parce qu'on avait promis de le faire avec Matt, normalement, qu'on devait avoir au téléphone, mais faute de timing, je pense qu'on va l'évoquer comme ça, avec toi, avec Jacques. Jacques, tu peux rappeler les dates du Slam Elite Camp qui va se dérouler, on le rappelle, à la Croix-Saint-Ouen,
en juillet.
Au mois de juillet.
Donc la première semaine, c'est du 20 au 24 juillet, et la deuxième semaine, c'est du 27 au 31 juillet. Donc il y aura Michael Hiraley, William Naras, bien sûr Kevin Serafin, et plein d'autres coachs aussi nationaux. Moi, je voulais vraiment faire une aparté là-dessus, parce que des camps de basket, on en a partout, on en voit fleurir partout. Moi, personnellement, si je suis resté sur le Slam Elite, ça fait la quatrième fois que je suis dessus. C'est vraiment la force de transmission. Parce que là, c'est pas juste, par exemple, Kevin Serafin, il va pas juste venir se balader, faire le tour du gymnase,
les autographes. C'est ce qui se
fait. Il va venir, il va donner des vrais conseils aux gamins. Et les gamins vont leur poser des questions sur sa carrière. Les gamins vont leur poser des questions sur comment, moi, à mon niveau, je peux évoluer. Il va faire des entraînements. Il va aussi les cadrer et régler les choses qui vont pas. Et le regard qu'il a, il est super différent et c'est ça qui apporte vraiment toute la plus-value du camp Slam Elite. Donc vraiment, je le dis, moi, je l'ai fait, c'est ma quatrième édition. Surtout pour les filles où je vois qu'il y a des évolutions au niveau filles, c'est assez, c'est clairement marquant. Mais on a des gamins qui sont dans la région qui le font. On voit clairement la différence. Limite, ça dure une semaine. Au bout de trois jours, ils sont déjà presque rincés tellement. Parce que là, tu manges du basket.
Exigeant.
Tu bouffes du basket.
D'accord.
Les fans. Tu dors basket.
Et tu dors basket. Et vraiment, tu vas à fond, à fond, à fond. Et on alterne le fait de travailler très dur avec les moments de convivialité, avec les moments de fun. Et c'est vraiment.
Ouais, c'est pas que de la souffrance. Hein.
Non.
Rassurer les jeunes et tout ça.
Mais pour le coup, mais c'est important d'insister là-dessus parce que il y a beaucoup de camps où c'est centre de loisirs, option basket.
Ouais, d'accord.
Là
où, c'est pas ça.
Samedi, tu viens pour bosser. Samedi, tu viens, tu vas progresser. D'accord. C'est clair et net.
Okay.
Parce que vu les gens qu'il y a et vu l'intensité qu'on y met, c'est clairement fait pour tous les jeunes joueurs basketteurs et basketteuses.
Qui veulent progresser.
Justement, tu disais jeunes, tu peux rappeler les âges concernés par ce Slam Elite, s'il te plaît ?
Ah, ben ça va de 6 jusqu'à 25 ans.
D'accord, tu vois, même.
C'est toujours moins toutes les travaux.
Garçons et filles, ouais, garçons et filles, il n'y a pas de souci. À La Croix, on a 2 gymnases, il n'y a pas de problème. Il y aura une armée de coach et d'entraîneur, dont Kevin Serafin, parce qu'évidemment, un gamin qui a, en face de lui, quelqu'un qui a joué NBA, c'est pas le même regard, c'est pas la même approche. Et en plus, quand je vois.
Même pour nous.
Oui. Quand je vois les relationnels, par exemple, je prends Michael Riley, qui est super cool. Je vois par exemple que ce gars-là, il a l'Instagram encore de certains gamins de La Croix, par exemple. Et ils échangent encore et puis ils donnent encore des conseils derrière. Donc il y a un vrai relationnel qui se crée.
Tu parles de transmission. Ça, ouais. Et Kevin, toi, tu as le même ressenti pour toi ? C'est comme ça que tu le conçois, le camp de basket ? Pas juste venir. Tu sais, on le voit parfois, tu t'as insisté là-dessus. Ouais. Mais parfois, les mecs, ils viennent, ils sont connus, ils viennent passer une heure. Hop, ils se marrent, on les voit plus, etc. C'est pas ça, en fait, le Slam Camp.
Pour être honnête, moi, j'ai horreur de ça.
Ouais.
J'ai horreur de ça aujourd'hui. Je pense vraiment que si vous impliquez ou vous dites quelque chose, et c'est pour ça que moi, ben, je m'implique vraiment avec les jeunes, c'est un moment, c'est vraiment le faire. Il y a des choses, il y a plein de domaines où vous pouvez négliger, vous pouvez faire autre chose et vous pouvez quand même avancer. Mais pour moi, à un moment, les jeunes, ils voient. Quand c'est du bullshit, ils le voient. Quand c'est n'importe quoi, ils le voient. Que ce soit les jeunes, que ce soit les parents, je le vois avec mon club à Poissy et je le vois avec les différents événements, ils le voient. Donc à un moment, c'est venir. Et après, moi, si j'ai un message vraiment à passer, c'est pour les jeunes, c'est quand vous avez accès à des VIP ou à des trucs, c'est pas forcément être embêtant, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à profiter. Moi, en tant que jeune, quand j'avais des pros autour de moi, comme on parlait de Jimmy Bat à l'heure, et j'ai eu différents pros autour de moi, je leur posais toujours des questions, je leur demandais toujours, mais comment ça se passe ? Comment si ? Comment ça ? Et après, des questions pertinentes, pas juste, l'atmosphère, non. Des questions basket qui pouvaient m'aider à progresser. Et je pense qu'à un moment, j'ai grappillé des choses un peu partout, et ça m'a permis de monter vite.
Bon, mais écoute, merci pour ton ressenti. En tout cas, on rappelle le Slam Camp, le Slam Elite Camp, pardon, je vais le faire dans le bon sens. Ça se passe du 20 juillet au pour la première semaine au 24, si je dis pas de bêtises, et puis la semaine suivante
du 20 au 24 et du 27 au 31 juillet.
Et allez-y, il reste des places. Donc prenez, franchement, c'est une expérience de malade qu'on vous propose dans le secteur. Allez-y, vous regretterez pas, vous progresserez, vous passerez des super moments. Et puis en plus, on a trouvé, je sais pas vous, mais je trouve que Kevin Serafin, c'est un mec plutôt cool. Donc voilà.
Super,
je pense que,
enfin, voilà. vraiment pour un savoir, Kevin, le GOAT, c'est Michael Jordan, on est d'accord.
Le GOAT ?
Ouais. C'est Michael Jordan, on est d'accord.
Basketement, oui, mais le prochain, ça sera sûrement Victor, mais le GOAT.
Oh, belle réponse.
Ouh,
belle réponse.
Ok, d'accord.
Belle réponse.
Ok, très bon. Bonne réponse. Sans faute. Bravo, Kevin. Un immense merci à toi
pour
nous
avoir accompagné. Merci beaucoup.
Il a passé quasiment une heure avec nous. Franchement, t'es super sympa, super cool. Tes anecdotes, elles étaient top. On s'est régalé.
C'est clair.
Les fans de basket, de Money Time, mais aussi les gens qui ont allumé la radio sur Compiègne, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qui ce mec ? Eh ben, c'est une légende, c'est Kevin Serafin.
Merci.
En direct dans Money Time.
Merci Kevin.
À très vite au mois de juillet.
À bientôt.
Merci, à très vite.
Salut.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Faut qu'on dise aussi comment on s'inscrit, parce que s'il y a des gens qui veulent y aller,
on va mettre
tout sur nos
sur
réseaux
Insta,
sociaux.
Sur Facebook, allez-y.
Okay.
Voilà.
Alors, il y a plusieurs façons. Soit vous allez sur le site internet du BBLC, donc La Croix Basket. Soit vous pouvez aussi taper Slam Elite tout simplement sur Facebook. Facebook, vous aurez les infos. Il y a aussi le club de Verberie avec qui on a commencé, avec qui l'histoire a commencé d'ailleurs, Slam Elite, et qui sont aussi dans la publicité.
Donc, nous, on va remettre tous les liens sur
le compte. C'est facile à trouver. Hein, voilà. Vous tapez Slam Elite sur Facebook, sur Insta, sur Google. Et normalement, vous allez facilement retrouver toutes les infos dont vous avez besoin.
Alors avant de passer au buzzer beater, je vais m'excuser auprès de Marie qui m'a fait une super chronique sur la WNBA, mais on n'a pas le temps. Voilà,
désolé Marie, bisous.
Ouais, gros bisous Marie.
Voilà.
Ouais.
Allez, on passe au buzzer beater.
Portland has a timeout. Lillard, a chance to send the Thunder home. Lillard, long range three.
Ok, alors la saison est finie, New York est champion.
Oh, il avait dit. Ah, c'est chiant.
Il me lâche pas, il me lâche pas.
Ouais.
M'en fous. Vive Détroit.
David,
longue vie. Longue vie à Détroit.
David a terrassé Goliath.
Et maintenant, qu'attendez-vous pour la saison prochaine? C'est un truc. Parce que là, on va s'arrêter. Il y a encore une émission le 1er juillet. Déjà, on l'annonce. Ce sera la dernière. Ce sera une spéciale avec la Diggers Réunion.
Ouais.
D'émission de 2 heures. Ça va être top. Soyez là.
Musique et basket. Ouais, si vous aimez la musique, si vous aimez le basket, c'est le 1er juillet. Ça va dépoter.
Ah, t'es le roi de l'annonce, toi.
T'aimes la musique? T'aimes le basket?
T'as du sucre?
T'as une crêpe?
Qu'est-ce qu'il faut changer pour la saison prochaine qu'on va attendre avec impatience? On va attendre début novembre avec impatience. Allez, tiens, Bruno, commence.
Tu commences.
Qu'est-ce qu'il faut changer?
Est-ce qu'on aura un back-to-back l'année prochaine?
Moi, je veux un back-to-back final. Ah, les deux équipes au final, les mêmes.
Les mêmes?
Ouais, je veux une revanche aux Spurs de Knicks.
Déjà, pour sortir de l'Ouest, ça va être encore la guerre.
Oui, c'est sûr, mais bon.
Mais...
ça n'aura pas.
Moi, je pense qu'ils ils ont tellement eu. Ouais. C'était tellement parfait, on va dire, pour New York, avec pas de blessures, pas un temps de jeu bien géré.
Pas d'affrontement, parce que ça aussi.
Voilà.
Pas de concurrence à l'Est.
Les autres se sont bien plantés, que je suis pas sûr que. Est-ce qu'on reverra un back-to-back prochainement en NBA?
Statistiquement, tu regardes les finales, il n'y a pas
non,
de finale.
Non, je dirais surtout parce que je pense que les autres équipes vont bouger, puis il y a des transferts qu'on attend là.
Laissez-moi rêver.
Le grec à Miami.
Qui avait pour la Knicks, ils ont gagné.
À Boston.
Où va Giannis? Que fait LeBron?
C'est fini, ces deux-là, c'est bon.
Et moi, pour continuer, moi, ce que j'attends l'année prochaine comme changement, c'est que l'Est et l'Ouest, il y a un rééquilibrage des niveaux. Ouais. Parce que toute l'année, on était tous persuadés que le sortant de l'Ouest allait gagner, il y a une telle différence de niveau. Et finalement, tu vois qu'ils se sont tous épuisés.
8 dernières années, 4 champions de l'Ouest, 4 champions de l'Ouest.
Ouais, c'est égalité.
Tu vois, donc c'est pas une science exacte. Hein. Ouais, c'est clair. C'est bon que.
Non, mais à chaque fois, quand tu vois quand Boston est champion et quand New York est champion, ils ont quand même des parcours. Les autres ils se tabassent de l'autre côté là.
Boston pareil, ils tabassent Dallas en finale parce que Dallas
ils en peuvent plus. C'est vraiment un...
Moi ce que j'attends
ça à un moment donné, ça hein. Ça avait été évoqué ça hein. Ils voulaient changer un peu à un moment donné les tableaux
déjà avec
et tout.
L'ouverture de nouvelles franchises, il y aurait c'est soit Memphis soit
il y aurait Minnesota
qui va passer à l'Est.
Alors Anthony,
il vaut mieux que ce soit Minnesota que Memphis si ça doit équilibrer, parce que Memphis il passe à l'Est.
Anthony Edwards, ça
c'était lié au tank là, c'était au tanking, ça c'est
ouais. Alors moi ce que j'attends de la prochaine saison, c'est que les mesures anti-tanking qu'ils ont prises, elles permettent d'avoir une saison régulière qui soit plus un calvaire à regarder pour la moitié des matchs, puisque cette année, là, on avait 10 équipes qui jouaient plus. Voilà, c'est une horreur. Donc là, en ayant réformé, on expliquait dans la dernière émission comment ça allait évoluer, que les derniers, en fait, n'allaient pas avoir plus de chances que les autres. Au contraire, ils auraient moins de chances que les gens qui étaient un peu compétitifs. Donc ça, moi, j'attends de voir si on va se retrouver avec une saison régulière qui sera un peu plus sympa à regarder. Parce que, faut être lucide aussi, hein, la saison régulière a été trop longue. On s'est bien fait chier avec beaucoup de matchs. Et le niveau des playoffs, en tout cas, il n'a pas été. On était content de le la finale. Mais c'était pas un beau, très très beau niveau.
Il y a eu quelques beaux matchs, mais le niveau global,
on a plus strippé les autres.
Je pense que l'équipe qui a eu le plus de difficultés où les matchs étaient beaux, c'était les Spurs. Les Spurs ont vraiment eu des séries compliquées et où ils ont vraiment laissé beaucoup d'énergie. Alors ils sont jeunes, ils ont tout, mais je trouve que les Spurs ont un peu égayé ces playoffs.
Parce qu'en dehors de Portland, c'est vrai, au tout début, après tous les autres, ils ont dû quand même
ils ont cravaché.
Hein.
Ouais, ils ont joué des grosses des équipes. Gros morceaux, quoi. Ouais. Donc
ça y est.
Alors on rappelle les dates du Slam Camp Elite. Avec Jacques.
Du 20 au 24 juillet et du
27 au 31.
Je peux vous dire n'importe quoi. Je reprends les fiches, c'est bon. Donc du 20 au 24 juillet pour la première semaine et du 27 au 31 juillet pour la deuxième semaine. Kevin Serafin, donc ancien joueur NBA français, sera là les deux semaines. Donc à l'occasion, on vous invite à venir le voir. Je rappelle que le camp est en porte ouverte. Hein. Donc vous avez le droit de venir voir et regarder, observer comment ça se passe. On a déjà eu des inscrits qui sont venus le jour d'après.
D'accord, c'est toujours
possible. Ils sont venus voir et puis finalement ils ont adhéré puis ils sont venus.
Par contre, dépêchez-vous d'assurer votre place parce que c'est vrai que...
C'est sûr qu'en général, les camps d'été sont quand même assez blindés vite. Mais il reste de la place.
Ok.
Allez, c'est l'heure des dédicaces. Donc, la dernière émission, ce sera le 1er juillet avec les Diggers Réunion. Et maintenant, on va passer aux dédicaces. Tiens, bah, au lieu de râler, tiens, comment?
Dédicaces à toutes les radios locales du coin.
Voilà. J'ai une petite dédicace.
Je fais des dédicaces au club de La Croix-Saint-Ouen, Marny, Verberie, bien sûr, aux gars de Slamlit, avec qui on va se voir bientôt. Et comme je le dis souvent, James Harden ne gagnera jamais de titre NBA.
Ça va, tu
on est d'accord.
Bravo, mais j'aime bien que les gens.
Bruno.
Ouais, bah une dédicace au STB, Le Havre, qui monte.
Oui.
Ah, bien. Donc c'est bien.
Ouais. Bah moi, dédicace à Matt qui nous écoute, qui s'occupe du Slam Camp, du Slam Elite Camp, là, voilà, que j'ai eu en contact. Qui est un gars super sympa, qui nous a permis aussi de faire le lien avec Kevin pour qu'il soit dans l'émission. Donc, bah, un grand merci à toi, Matt. Je sais que tu nous écoutes. Et ben, je vous dis au 1er juillet, les gars, ça va déchirer pour la dernière.
Et moi, une dédicace encore à Marie, qui est, j'ai squeezé sa chronique.
Bisous, Marie. Bisous, Marie.
Allez, salut les potos, au 1er juillet.
Ciao. Salut.